Histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernet.
Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Gioconti. Stéphane Gioconti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, biographe. Vous avez publié des ouvrages tout à fait remarquables d'histoire de la littérature. C'était les Daudets, consacrés à cette famille qui ne se borne pas et de loin au seul talent du grand Alphonse Daudet. Il ne faut pas oublier son fils, son petit-fils au destin tragique. Vous êtes le biographe de T.S. Eliot. Également, ce qui est plus rare, vous êtes spécialiste de la littérature japonaise et vous avez consacré une biographie remarquable à Mishima. Mais c'est un autre sujet qui vous a préoccupé ces derniers temps. Vous revenez à votre formation et vos goûts de jeunesse en publiant « La Renaissance du Sud » aux éditions du Cerf, un ouvrage de 343 pages vendu 22 euros, qui est consacré à cette extraordinaire renaissance de la culture provençale et occitane au XIXe et au XXe siècle. Stéphane Gioconti, pourquoi, puisque vous le dites vous-même, vous n'êtes pas d'origine provençale, vous n'êtes pas du Midi, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette culture du Félibrige ?
Dans un premier temps, j'étais très attiré par la musique de compositeurs comme Vincent d'Indy, Joseph Canteloube et Déodat Sévrac, et je me suis interrogé sur le rapport que des poètes avaient eux aussi avec leur terre. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à des gens comme Frédéric Mistral, Charles Maurras et plein d'autres. Et donc, dans un premier temps, j'ai consacré une thèse à Maurras intitulée « Maurras fait libre ». Et puis récemment, avec mon éditeur, nous avons décidé de nous pencher, enfin que je me penche plus précisément d'une façon plus large sur la littérature ou les littératures doc depuis les troubadours jusqu'à aujourd'hui, ce qui est évidemment très 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 ambitieux. Mais bon, j'ai essayé de concevoir ça comme une promenade qui ne soit pas trop difficile d'accès pour le lecteur.
Ce qui est extrêmement intéressant quand on vous lit, c'est qu'on prend conscience que le Midi, d'une certaine manière, est un ensemble jamais unifié de territoires unis par une langue, et qu'en fait nous sommes quasiment devant un mythe, et que ce sont des poètes qui ont donné forme à l'idée politique de ce Midi.
Là, je ne serais pas tout à fait d'accord, enfin du moins je serais nuancé, parce que Mistral, en réalité, ce qu'il a réussi à faire, c'est une renaissance provençale qui s'est répandue ensuite un peu partout dans Locke, ce qu'on appelle Locke. Mais vous savez, il y a un dicton provençal qui est assez amusant, c'est « a chasca oseo son il es beo », c'est-à-dire « à chaque oiseau son nid est beau ». C'est-à-dire que Mistral a travaillé pour la Provence, mais par exemple, en Gascogne, eh bien, des gens comme Miqueo de Canellas ou Simon Palay, ils ont travaillé pour le Béarn. Et puis il y en a même plus tard, au XXe siècle, qui ont voulu dépasser carrément le cadre politique. Je pense par exemple à Bernard Mancier, qui a voulu consacrer son propre gascon, le gascon landais, comme une langue purement littéraire, c'est-à-dire détachée de toute considération politique, surtout unificatrice.
Diriez-vous, Stéphane Gioconti, qu'à la base de tout cela, il y a ce souci qui naît dans une France prise par l'étau du jacobinisme, de sauver une langue qui apparaît déjà au début du XIXe siècle comme menacée de mort?
Oui, absolument. Il y a une fracture, une césure catastrophique et monstrueuse dans l'histoire de France. C'est par rapport aux langues et ce qu'on appelait les patois, c'est la Révolution et évidemment la terreur particulièrement, puisque auparavant, jamais le roi n'est intervenu, en tout cas de façon efficace par rapport aux usages de ces langues. Et même l'ordonnance de Villers-Cotterêts n'a pas exclu les langues d'oc en particulier, ou d'oil, puisqu'il était précisé dans des textes autour de cette ordonnance que le langage maternel français, ça impliquait également les langues d'oc. Par contre, l'abbé Grégoire et puis l'épouvantable Barère et le sinistre Robespierre ont écrit, ont dit qu'il fallait anéantir les langues et dialectes de la France. Et c'est à partir de là que malheureusement, le républicanisme va, comment dire, charrier un certain nombre de préjugés et de discriminations même vis-à-vis de ces langues et de leurs locuteurs. Jusqu'à aujourd'hui, puisque Philippe Blanchet l'a bien montré, malheureusement, la France est un pays glottophobe, ce qui est insensé quand on conçoit la richesse linguistique et littéraire de ces langues qui sont en train de mourir.
Ce qui est, vous le dites, un drame, la mort d'une langue, possibilité terrible, reflète un rétrécissement du monde et une diminution de l'arc-en-ciel humain. C'est très joliment dit, mais en effet, une langue peut mourir, et il en meurt tous les jours.
C'est ça, il en meurt tous les jours, il en meurt en Afrique, il en meurt dans plein d'endroits. Et là, ce que je trouve incroyable, c'est que nous avons des langues qui sont encore un petit peu vivantes, enfin plus ou moins. L'Auvergnat est quasiment mort, hein. Il y a à peine 1000 locuteurs aujourd'hui en Auvergne, c'est terrible. Mais enfin, nous avons quand même un certain nombre de locuteurs en Provence, en Languedoc, en Gascogne, etc. Et on passe à côté, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas d'ailleurs vraiment leur littérature, on y a de moins en moins accès, et il y a une sorte de sous-représentativité dans la conscience littéraire et linguistique de la France, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et c'est une volonté politique d'anéantir en quelque sorte les racines des provinces. Et vous parliez de langue maternelle. La langue maternelle, c'est la langue qui est transmise par les femmes. Elle est transmise en même temps que le passé, que les souvenirs, que l'enracinement et que la religion. C'est probablement contre cela que Barère, Grégoire et les autres se sont élevés.
Tout à fait, puisque le français a été érigé comme langue soi-disant universelle, mais en réalité porteuse des idéaux révolutionnaires. Et il y a eu une intention, effectivement, de déracinement, d'homogénéisation, parce que il y a une, c'est une véritable maladie. Là, par rapport à ça, je suis d'accord avec Proudhon, c'est la maladie de l'unitarisme, enfin de l'unité, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit pareil. Et c'est l'homme rousseauiste, finalement, qui transparaît à travers cette hostilité par rapport aux langues. Et ce qui est assez incroyable à constater, c'est que la Troisième République a passé sa vie à célébrer le folklore. Mistral a été, pour ainsi dire, statufié par la Troisième République, et vous savez que le président Poincaré s'était rendu à Mayenne chez Mistral pour le fêter, c'était un très vieil homme. Mais à côté de ça, les langues étaient systématiquement exclues à l'école, même en tant que langue facultative, et même quand il s'agissait d'enseigner par exemple le français à des Provençaux ou à des Catalans qui ne parlaient pas la langue française, c'était interdit. Et récemment, il y a encore un livre qui est paru à propos du fameux signal, c'est-à-dire cette marque de honte que devaient porter les enfants lorsque, d'aventure, un mot provençal ou autre sortait de leur bouche. On les punissait. Et il y a donc des générations entières d'élèves qui ont connu une persécution officielle parce qu'ils prononçaient les mots de leur coin, de leur pays. C'était le vocabulaire des paysans, c'était le vocabulaire de la famille. Et puis, vous l'avez bien dit aussi, qu'il y a une certaine forme d'antiféminisme en même temps qu'une forme de laïcisme totalement borné, c'est-à-dire que la langue originelle, c'est celle du prêtre, c'est celle de la mère ou de la femme. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de préjugés qui sont apparus à partir de la Révolution.
C'est comme aurait dit Michelet, la femme, la langue, le patois, tout cela, c'est la contre-révolution en marche.
Ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et pour écrire ça, Michelet s'inspire certainement d'une phrase de Barère, hein, qui accuse le patois d'être la langue de la féodalité. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une haine, c'est aussi une haine de soi, je trouve. C'est assez frappant dans ses discours.
Avec cette humiliation imposée, mais pas seulement dans le Midi, c'était vrai au Pays Basque, c'était vrai en Bretagne. Je suis un âne, j'ai parlé breton, je suis un âne, j'ai parlé provençal. Ces humiliations infligées aux enfants. Et j'avais découvert que ça avait existé également en Écosse, où les enfants qui parlaient gaélique avaient le même genre de traitement.
Absolument. Et alors je voudrais citer, puisque vous m'en donnez l'occasion, une phrase de Vassili Grossman, vous savez, celui qui a écrit « Vie et destin », un roman enfin formidable, magnifique, c'est le successeur de Tolstoï, si on peut dire. Il dit ceci dans « Vie et destin », qui apparemment n'a aucun rapport avec notre propos, mais il dit ceci « La vie devient impossible quand on efface par la force les différences et les particularités ». Alors pour quelqu'un qui connaissait à la fois enfin, ce que c'était que le nazisme et ce que c'était que le communisme stalinien, je trouve que ça devrait faire réfléchir en ce qui concerne nos problèmes linguistiques.
Et vous avez une très jolie formule, l'éducation moderne qui déracine et dessèche, ignorant le besoin de merveilleux,
Oui.
qui
Non,
fait les
parce que.
saints, les héros, les poètes et les artistes.
Oui, Mistral est le témoin et la preuve de cela. Et le livre qu'il faut lire à ce sujet, ça s'intitule Mémoire et récits.
Une
C'est
merveille.
vraiment un témoignage, puis souvent très très drôle, très comique, c'est malicieux. Mistral montre bien que finalement, il a appris plus de choses par sa mère et par les paysans autour de lui qu'à l'école. Vraiment, l'école, ça l'abrutissait, enfin, c'était desséchant, justement. Et quand il était petit, il croyait dans toutes sortes d'histoires locales, des légendes, des choses qui lui étaient racontées autour de lui. Et certainement, cela a participé à la naissance de son inspiration poétique.
Et paradoxalement, d'ailleurs, ce sont des textes de Mistral que l'on retrouvait à l'époque dans la plupart des livres de lecture de l'école républicaine et laïque.
Oui, c'est ce paradoxe d'une république qui à la fois exalte le folklore et exalte même certaines dimensions régionales comme des véhicules du patriotisme français, ça c'est surtout vrai avant 1914, mais qui en même temps est extrêmement ambiguë puisqu'elle est d'une intolérance farouche en ce qui concerne l'apprentissage des langues. Et c'est tellement paradoxal que, vous voyez, dans le Félibrige, il y a eu plusieurs ministres, il y a eu des députés. Il y a eu des maires, je pense par exemple à Sextus Michel, qui faisait partie du Félibrige de Paris, qui était maire du 15e arrondissement, et ils n'ont pas levé le plus petit doigt pour permettre l'introduction du provençal facultatif pour les élèves.
Comment l'expliquez-vous? Par un mépris de ses propres racines, la peur de passer pour un bouseux de province ou de Provence, ou par simplement une espèce de lâcheté intrinsèque à la classe politique?
Oh ben, vous avez tout résumé. Je crois que c'est ça. Et puis, les faits libres, souvent, surtout quand ils prenaient des responsabilités, ils étaient sensibles au quant à soi, ils étaient sages, ils faisaient attention à leur promotion sociale. Donc, ils n'avaient pas ce côté activiste et militant que l'on trouve soit chez les occitanistes, soit chez les catalanistes jusqu'à aujourd'hui.
Stéphane Gioconti, justement, il faut tout de même commencer, j'allais dire par le début, Frédéric Mistral. Qui est Mistral?
Alors Mistral est un enfant de Mayanne, dans le Vaucluse. Sa famille remonte à plusieurs siècles en arrière. Et Mistral, c'est celui qui va relever la langue provençale. Il disait qu'il l'avait trouvée habillée en paysanne et il va la vêtir en princesse. Et cela par l'instrument d'un poème qui est Mireille, qui paraît en 1859 et qui est un poème en 12 chants. Et je précise tout de suite que c'est un poème qui est constitué de 14 000 mots, c'est-à-dire que le lexique de Mireille est absolument fabuleux. Et en plus, c'est un lexique qui, pris dans les vers, devient d'une poésie absolument merveilleuse. Donc c'est un très très beau poème qui a été salué par Lamartine. En 1854, un petit peu avant, il a, avec 6 autres amis, créé le Félibrige, donc une institution, une association destinée à défendre le provençal et la langue d'oc ou les langues d'oc, comme on voudra. Et ce Félibrige existe toujours. J'ajoute aussi que Mistral a écrit d'autres épopées. Après Mireille, il y a Calendao en 1867. Il y aura le poème du Rhône en 1896. Et puis, c'est aussi un poète lyrique et un poète politique, comme l'avait bien remarqué Pierre Lasserre en son temps, puisqu'il y a des Sirventes qui sont très très dynamiques et très très beaux dans l'indignation qu'ils expriment.
Stéphane Gioconti, un grand merci. Je
Merci à
rappelle
vous.
que vous publiez ce remarquable La Renaissance du Sud aux éditions du Cerf. Merci infiniment.
Merci.